Bonjour Tahar Ben Haeloun.
Bonjour.
Il y aura un an dimanche, la France était victime des pires attentats de son histoire à Paris et en Seine-Saint-Denis qui ont fait 130 morts. Vous avez publié récemment un livre intitulé « Le terrorisme expliqué à nos enfants » dans lequel vous dites « Le 13 novembre, les terroristes se sont attaqués au mode de vie des gens civilisés ». C'est ce que vous expliquez à votre fille dans un dialogue imaginaire. Car pour vous, y compris sur un sujet aussi grave que celui-là, il est essentiel de dire la vérité aux enfants.
Absolument, parce que les enfants ne supportent pas qu'on leur mente ou qu'on maquille la réalité. Sauf qu'il faut évidemment choisir les mots et le moment pour leur parler, pour leur expliquer. Moi, j'ai pensé à toutes ces familles endeuillées qui devaient parler à la petite sœur ou petit frère qui a perdu soit un ami, soit un cousin, soit un frère, et comment leur parler, comment leur expliquer cette horreur, l'innocence absolue attaquée. Attaqué par des gens inconnus, des gens sans visage, des ennemis et qui sortent de nulle part et qui arrivent et qui causent le malheur de plusieurs familles.
Alors vous parlez donc du terrorisme dans ce livre, d'ailleurs pas seulement du terrorisme islamique ou islamiste, mais il en est largement question.
Oui, j'ai fait l'historique depuis la Révolution française, oui.
Alors votre fille vous demande comment des gens peuvent en arriver à cette folie meurtrière. Et vous lui répondez qu'ils ne sont pas fous, les terroristes,
surtout pas,
et qu'ils agissent pour réaliser un objectif, dites-vous, je vous cite, pour faire triompher leur idéal, celui d'un État islamique purifié. Est-ce que c'est aussi, cette réponse, une façon de dire que l'on ne peut pas se contenter de répondre, pas d'amalgame, il n'y a aucun rapport entre l'islam et les terroristes?
Non, il faut tout dire et il faut tout analyser. Et puis, de toute façon, quand le djihadisme parle aux jeunes qui les aiment un petit peu de recruter, il leur présente un monde idéal, et surtout il faut pas les traiter de fous, parce que le fou est irresponsable, le fou il est malade,
oui.
On va le mettre dans un asile. Là, il y a une forme de folie qui n'est pas psychiatrique, c'est une folie avec une certaine rationalité intérieure qui fait que ils veulent imposer un mode de vie. C'est pour ça qu'ils s'attaquent au mode de vie des autres, et en même temps ils veulent absolument punir l'Occident pour son mode de vie, pour la condition de la femme qui jouit de à peu près des mêmes droits que l'homme, enfin pour tout ce qu'ils ne peuvent pas supporter, donc ils l'attaquent et ils l'assassinent.
Alors vous citez ce fameux verset du Coran qui est régulièrement repris, qui dit, j'ouvre les guillemets, hein, tuez les infidèles où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les. Et vous expliquez que cet ordre a été délivré en un temps et des circonstances
absolument
bien précis. Le problème, est, vous en convenez, c'est que pour un certain nombre de musulmans aujourd'hui, il reste d'actualité.
Bon, alors tout le problème est là, c'est la manière de lire et d'interpréter le Coran. Le prophète Mahomet avait à certains moments des ennemis qui voulaient absolument sa mort, donc il devait se défendre. Il avait donc quelques soldats avec lui, des compagnons, pour se défendre. Et alors, il partait, bien sûr, il s'est réfugié à Médine, et le verset est arrivé pour dire les infidèles, ceux qui veulent la mort du prophète à ce moment-là précis. Et les ennemis du prophète, les ennemis du messager de Dieu, c'était au 7e siècle. Évidemment, quand on lit le Coran de manière littérale, sans aucune distance, sans aucun symbole ni métaphore, on pense que tous les versets sont perpétuels, ils ne sont pas circonstanciels. Or, il y a deux façons de lire. Il y a les versets qui sont arrivés pour une situation précise, à un temps donné, et puis des versets universels et perpétuels, comme on les trouve dans les autres religions monothéistes.
Le problème, c'est qu'il y a les partisans d'un islam éclairé qui disent il faut interpréter le Coran, mais les autres, on ne peut pas l'interpréter.
Depuis tout le temps, il y a eu une vraie bataille entre la raison, les rationalistes, les philosophes éclairés, il y a eu un islam de lumière grâce à eux, et puis de l'autre côté, les gens qui disent pas du tout, la parole de Dieu est incréée, elle est là, et puis il y a une lecture totalement, alors là vraiment, simpliste et schématique du Coran, ce qui n'est pas normal.
Et cette dualité, finalement, c'est ce qui vous conduit à dire que vous lisez toujours régulièrement le Coran et qu'à la fois, dites-vous, il vous le bouleverse parfois par sa beauté et en même temps, il vous fait peur.
J'ai lu aussi les textes sacrés des autres religions parce que je trouve que les religions sont là pour peut-être donner des réponses à l'angoisse humaine. Mais en même temps, le Coran est arrivé en s'inspirant du christianisme et du judaïsme, parce que c'est la troisième religion monothéiste qui reprend les valeurs essentielles du christianisme, c'est-à-dire l'amour du prochain, le respect du prochain, la justice, le droit, etc. Mais évidemment, il y a à côté de cela une situation géopolitique de l'époque qui a été à laquelle s'est confronté le prophète et qui est reprise aujourd'hui par les tenants de cet islam djihadiste et qui n'est pas du tout juste, parce que même si nous prenons le terme de djihad, le djihad d'abord veut dire l'effort qu'on fait sur soi pour devenir meilleur, pour s'améliorer, pour être un bon musulman, un bon croyant, un bon être humain. Or la deuxième signification du djihad, si vous êtes attaqué, ce qui a été le cas du prophète, vous devez vous défendre. Mais pour le moment, personne n'attaque l'islam, si ce n'est Daesh lui-même qui attaque l'islam.
Vous parlez des mesures à prendre pour faire face à cette menace terroriste. Alors, il y a les mesures sécuritaires, vous dites globalement, elles sont prises, mais vous dites également que la France, comme d'autres pays, devrait accepter de réviser sa politique et de repenser ses relations avec certains États du Proche ou du Moyen-Orient. Est-ce que, au fond, vous faites allusion au rapport de la France avec certaines pétromonarchies et que vous dénoncez une forme de schizophrénie de la France?
Ah oui, absolument. De toute façon, là-dessus, tout a été dit. L'Arabie Saoudite et le Qatar pratiquent le wahhabisme qui est l'idéologie de Daesh, ni plus ni moins. C'est-à-dire, c'est la doctrine la plus dure et la plus étriquée, la plus fanatique de l'interprétation du Coran et l'islam. Et en même temps, vu qu'il y a des relations commerciales importantes, on ferme les yeux sur cet aspect-là. Mais c'est l'Arabie Saoudite et Qatar qui, au départ, avec, disons, surtout à partir de 1989, avec l'intervention en Afghanistan. C'est là où l'Arabie Saoudite a envoyé des militants pour lutter contre l'athéisme du communisme. Et à partir de ce moment-là, elle a fabriqué l'intégrisme religieux, elle a fabriqué les futurs talibans et les futurs daéchiens.
Donald Trump a fait retirer dès hier sa proposition de campagne d'interdire aux musulmans l'entrée sur le sol américain. Cette proposition n'apparaît plus sur le site internet. Est-ce que ça vous rassure sur l'attitude qu'aura le nouveau président américain à l'égard des musulmans?
De toute façon, il va s'adapter, c'est normal. Mais en même temps, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que Daesh s'est félicité de l'arrivée de Trump, de son élection. Ça veut dire finalement les deux extrêmes se retrouvent et les deux visions étriquées et totalement fanatiques du monde se retrouvent. Que Daesh soit d'accord avec Trump, ce n'est pas étonnant. Mais le Trump qui va gouverner, à mon avis, va être très différent du Trump qui a fait ses discours délirants et insultants vis-à-vis et des femmes, et de l'islam, et des immigrés, etc.
Cette victoire de Trump aura des conséquences en France, selon vous, très brièvement?
Inconsciemment, il va y avoir des portes ouvertes dans l'extrême droite, parce que c'est une façon un petit peu de d'être dans le courant international, qui est celui de Trump.
Merci, Tahar Benjelloun. Bonne journée.